présenté par Christelle Le Polothèque
et préparé par Rachel Rimmer. Une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Philippe Auriol, historien, à l'occasion de l'apparition de sa monumentale Histoire de l'affaire Dreyfus de 1894 à nos jours, aux éditions Les Belles Lettres, dont les recherches ont bénéficié du soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Un livre monumental, donc je l'ai dit, 1500 pages, qui s'ajoute à l'importante bibliographie consacrée à l'affaire, mais que vous avez voulu, Philippe Auriol, au plus près du déroulé des événements, notamment grâce à un travail de documentation et d'exploitation de fonds d'archives, dont certains sont totalement inédits. Parce que, contrairement à certains ouvrages d'opinion, ce qui vous intéressait, c'est véritablement l'histoire de l'affaire. Alors, pour aider le lecteur, dans cette plongée minutieuse, détaillée de l'affaire Dreyfus et de la France de cette époque, on peut noter le très utile index analytique à la fin de l'ouvrage. Alors pour tenter de rendre compte de ce livre, nous allons exceptionnellement lui consacrer deux émissions. Aujourd'hui, avec vous, Philippe Auriol, nous allons revenir sur les origines de l'affaire Dreyfus en 1894 et la découverte d'un bordereau dans la corbeille de l'attaché militaire allemand à Paris. C'est ça le début,
oui. Donc bonjour. Bonjour. Oui, c'est ça. Nous sommes à la fin du 19e siècle. À un moment, alors on a un peu forcé le trait à ce sujet généralement, mais à un moment où effectivement la France est amputée de deux régions importantes qui sont l'Alsace et une partie de la Lorraine, et on n'est pas vraiment, à vrai dire, dans une période d'espionnite. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que la tension existe entre la France, l'Allemagne et l'Italie, et que chacun espionne chacun. Et donc, à l'ambassade d'Allemagne, une brave dame, qui est en fait femme de ménage, est salariée par le contre-espionnage, qu'on appelle très pudiquement la section de statistiques, et son travail est de faire les poubelles, et de remplir son corsage avec ce qu'elle trouve dans les poubelles, qu'elle transmet à l'état-major, et assez régulièrement, à peu près une fois par semaine, elle apporte sa moisson, et un jour, dans cette moisson, il y a ce document tout à fait étonnant qui passera à la postérité sous le nom du bordereau. Donc c'est effectivement le point de départ de cette affaire qui n'est pas encore Dreyfus.
Et ce bordereau, qu'est-ce qu'il apprend donc au service de la statistique, c'est ça?
Oui, la section de statistique. En fait, il n'apprend rien du tout, parce qu'il est sans le moindre intérêt, en fait. C'est-à-dire que les documents qu'il est censé accompagner, hein, c'est un bordereau d'accompagnement, donc c'est simplement le récapitulatif de pièces qui sont livrées à ce moment-là, sont des pièces que tout le monde connaît. Donc ça n'a rien d'absolument extraordinaire. Mais toutefois, ce qui est tout à fait extraordinaire avec ce document, c'est que d'habitude, c'est la correspondance que nous avons entre les attachés militaires italiens et allemands, et qui permet de savoir qu'effectivement, il y a des traîtres qui leur fournissent des documents, secrets ou pas d'ailleurs. Mais là, pour la première fois, c'est le mot écrit directement par le traître. Donc là, effectivement, on imagine quelle panique saisit et la section de statistiques, et l'état-major, et le gouvernement, s'il en avait été au courant, mais ça, on en parlera plus tard. Donc il y a on sait qu'il y a des traîtres, ça c'est sûr, mais là, on a le mot de la main du traître, et effectivement, ça change un peu les données.
Est-ce que vous pouvez nous présenter les principaux acteurs de l'affaire à ce moment-là? Vous parliez du gouvernement, il y a notamment le ministre de la Guerre, ouais. Mercier, et le commandant Henri, qui vont jouer un rôle fondamental.
Tout à fait. Donc le premier personnage, on l'a déjà présenté, c'est Madame Bastian. Ah, non, Dreyfus n'existe pas encore, il n'est pas là. C'est donc Madame Bastian, la femme de ménage, son acolyte, le commandant Henri à l'époque, il viendra lieutenant-colonel par la suite, qui est celui au contre-espionnage, à la section de statistiques en fait, qui réceptionne la documentation apportée par la Bastian, comme on l'appelle. Il y a aussi un personnage qui est tout à fait important à ce moment-là, qui est le général Gons, qui est le sous-chef d'état-major, et donc qui est le niveau hiérarchique automatiquement supérieur, et le niveau hiérarchique encore au-dessus, le chef d'état-major, le général Boisdeffre. Et tout ça sera très ces personnages auront un rôle tout à fait important, puisqu'ils feront partie de ce qu'on a appelé la collusion, c'est-à-dire de ce groupe de militaires qui va et assurer la condamnation de Dreyfus et protéger par la suite la condamnation de Dreyfus. Et enfin, au-dessus, il y a le ministre de la guerre, donc qui, comme tous les ministres de la guerre, est là pour un moment, simplement, et qui est le général Mercier, qui est un personnage tout à fait étonnant, républicain, assurément, marié à une protestante, mais qui est dans une situation tout à fait compliquée. C'est que depuis un moment, il se sent sur un siège à bascule. Les militaires ne sont absolument pas satisfaits de la manière qui est la sienne de concevoir son ministère. Et au moment où arrive ce fameux bordereau, c'est pour lui une catastrophe définitive. Il faut absolument qu'il règle cette affaire le plus vite possible, sans quoi, effectivement, le siège à bascule qu'on imagine depuis un moment va se mettre à fonctionner. Et donc, on est là dans une panique totale entre les deux grands personnages de l'état-major et le ministre qui doivent régler absolument cette affaire. Et naturellement, tout va être fait en dépit du bon sens, tout simplement pour arriver à trouver le plus rapidement possible l'auteur de ce fameux bordereau sans intérêt. Mais si jamais la presse l'apprenait, que deviendrait et l'état-major et l'armée, etc., etc.
Oui, c'est ça qu'on voit très bien dans votre livre. Ce sont les manipulations auxquelles vont se livrer Henri et Mercier pour faire accuser Dreyfus. C'est-à-dire leur volonté d'avoir un coupable à tout prix, finalement, qu'il le soit ou non. L'important, c'est d'avoir ce...
Il faut quelqu'un, et il n'y a personne. Et donc, à partir d'une fausse enquête bâclée, idiote, en fait, et qui repose sur quelques postulats qui ne résistent pas une minute à l'examen. Par exemple, dans le bordereau, il est question de documents de nature différente. Donc, inévitablement, qui est susceptible de trouver des documents de nature différente, c'est forcément un stagiaire, puisque les stagiaires passent par les différents bureaux de l'état-major. Il est question d'artillerie, donc nécessairement ce ne peut être qu'un artilleur. Donc le premier tri est fait, sans se poser plus de questions. Il faut chercher un stagiaire, il faut chercher un artilleur. Donc on cherche, on en trouve 3 ou 4, et un homme tout à fait important, un personnage tout à fait important dans l'affaire Dreyfus, qui s'appelle le lieutenant-colonel d'Aboville, qui a un peu l'enthousiasme et le zèle de la personne qui vient d'être nommée. Ça fait une journée qu'il est à son poste, et naturellement, commencer cette première journée par un coup d'éclat est tout à fait formidable. Donc, en fouillant un tout petit peu et en regardant, il découvre Dreyfus. D'Aboville est antisémite, donc c'est pas du tout une machination, hein, on ne vise pas Dreyfus, et c'est pas le juif en lui, mais le fait, naturellement, que Dreyfus soit juif, crée une sorte de circonstances aggravantes. Et là, naturellement, on va tout de suite se renseigner. Donc on cherche même pas à savoir quelles ont été les notes de Dreyfus, qui est un officier brillantissime, très très bien noté. Très bien noté, sauf une fois, par un général qui s'appelle le général Fabre, qui au cours de ses études, donc à chaque fois qu'il passe dans un bureau, il est noté, celui-là est encore antisémite, et effectivement, il a fait un rapport qui est un rapport défavorable. Donc d'Aboville va tout de suite voir Fabre, qui est tout à fait enthousiasmé par cette découverte, et voilà comment l'affaire Dreyfus est réglée.
Et on va même jusqu'à dire que c'est à cause de cette note défavorable qu'il aura décidé de trahir son pays, c'est ça ? Il y a toute une...
Oui, alors ça, c'est une autre histoire, en fait, c'est-à-dire qu'à l'école de guerre, mais c'est intéressant à raconter quand même. À l'école de guerre, quand on passe par l'école de guerre, parmi les notes qu'on peut obtenir, il y a une note qui s'appelle la cote d'amour, et qui est une note en fait qui ne repose sur rien du tout. C'est simplement une appréciation de la hiérarchie de l'école qui va essayer de... c'est une note un peu qui peut faire barrage, pour voir si... évaluer en tout cas si la personne notée est susceptible ou pas d'assurer un service bénéfique, en tout cas pour l'état-major, puisque les gens qui passent par l'école de guerre, les 10 premiers vont être nommés à l'état-major. Et on va mettre une mauvaise note à Dreyfus, et un de ses amis qui s'appelle Picard, qui n'a rien à voir avec le Picard qu'on retrouvera tout à l'heure, ces deux-là ont la caractéristique d'être juifs, et ils vont tous les deux avoir 5. C'est une façon de faire barrage, puisqu'il y a une loi qui est passée lors d'une réforme précédente qui permet aux 10 premiers d'y aller, et pour le général chef de l'école de guerre, il n'est pas question qu'un juif intègre l'état-major. Vous imaginez, les juifs sont des traîtres. Donc s'il est à l'état-major, il va avoir des papiers secrets qu'il va pouvoir transmettre à l'Allemagne, etc., etc., etc. Et donc on fait barrage seulement. Dreyfus a des notes qui sont tout à fait excellentes, et ce 5 le fait rétrograder de quelques places, c'est-à-dire à la 9e place. La 9e place suffit pour intégrer l'état-major, et Dreyfus dira plus tard qu'effectivement, quel malheur d'être passé à l'école de guerre. Parce que s'il n'était pas passé à l'école de guerre, il n'y aurait jamais eu cette affaire, en fait.
On va avancer, parce que cette histoire est...
Et très longue.
Et très intense également. Mais juste très rapidement, donc, il y a un premier procès. Est-ce que, dès ce premier procès, la presse va jouer un rôle ? Est-ce que, dès le début, il y a une sorte de cristallisation autour de cette affaire ?
Alors, Dreyfus est arrêté le 15. Et ce qu'on a un peu souvent dit et qui est vraiment intéressant, c'est que, bon, il y a une scène célèbre qui est la scène de la dictée et qui a été pensée pour que Dreyfus se trahisse, etc. Bon, en fait, tout ça est faux. C'est-à-dire que la scène de la dictée a existé, mais.
La scène de la dictée, donc.
On lui dicte le bordereau, et naturellement, il est censé se troubler, et à partir de ce moment-là, sa culpabilité éclatera. Et en fait, tout ça est complètement truqué, puisque la décision a été déjà prise 3 jours avant. L'ordre d'arrestation est déjà signé, on s'est entendu avec le chef de la prison pour pouvoir le réceptionner, etc. C'est-à-dire que quelle que soit l'issue de la scène de la dictée, de toute façon Dreyfus sera arrêté. Donc Dreyfus est arrêté et il est mis au secret, selon d'ailleurs, j'ai retrouvé un papier tout à fait intéressant, qui sont les directives données par le ministre Mercier et qui sont complètement illégales, c'est-à-dire que ça ne correspond absolument pas à ce que doit être le régime d'un prisonnier, et la volonté de le casser moralement sur des détails hyper importants, et surtout pour un militaire, le fait par exemple qu'il n'ait plus le droit de se couper les cheveux et de se raser. Donc l'idée, c'est qu'il devienne hirsute et que physiquement, il commence à se délabrer pour que mentalement, psychologiquement, il puisse se délabrer, etc. etc. Et en fait, le secret va être gardé pendant une quinzaine de jours. Ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que sur cette note en question, il y a une rature de la main du général. Il pensait qu'on pouvait, au début il a écrit qu'on pourrait livrer l'information 2 jours après, et comme le problème c'est que Dreyfus n'avouera jamais, et ça il commence à en prendre conscience, il barre et il met jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que peut-être un jour, espère-t-il, Dreyfus puisse avouer. Et pendant 15 jours en fait on va garder le secret, c'est-à-dire que personne ne parlera de ça, personne ne sait que Dreyfus est arrêté au Cherche-Midi, et même pas sa famille. C'est-à-dire qu'on ne prévient personne, etc. Sa femme va être prévenue au bout d'un moment, mais elle n'a pas le droit d'en parler à qui que ce soit. Et tout à coup, l'affaire va sortir dans la presse, 15 jours après. Et alors là, très curieusement, on a retrouvé les correspondances qui sont à l'origine de cette fuite. Donc quelqu'un qui signe Henri, mais on en est sûr aujourd'hui qu'il n'a rien à voir avec l'Henri dont nous avons parlé tout à l'heure, ce n'est pas le même, envoie, donc deux personnes différentes, envoient chacun une lettre à un journal pour dire qu'effectivement un traître est au secret à l'état-major, etc., et que ce traître est juif et s'appelle Dreyfus. Et comme par hasard, sur les quelques 2000 journaux qui existent en France, on en choisit un seul pour envoyer ces deux lettres, c'est le journal d'Édouard Drumont, le pape de l'antisémitisme, La Libre Parole. C'est-à-dire que pour certains, la volonté d'en faire une affaire antisémite, et c'est là où la machination, que moi je considère plutôt comme secondaire que primaire, on n'a pas visé Dreyfus parce qu'il était juif, mais à partir du moment où on a Dreyfus, on va essayer d'en faire quelque chose. Et naturellement, donc c'est à La Libre Parole qu'on l'envoie, et donc là l'affaire éclate dans les journaux, et si La Libre Parole est un journal dont le tirage reste assez confidentiel, on est entre 60 000 et 100 000 exemplaires quotidiens suivant les jours, c'est pas gigantesque, mais c'est un journal qui a une influence considérable. Et effectivement, à partir de ce moment-là, l'information filtre, et là, Mercier se retrouve dans une situation encore plus embarrassante, puisque Dreyfus est vu tous les jours, une enquête est menée, et Dreyfus n'avoue rien. Mmh. Et le problème, c'est qu'il n'y a aucune preuve, il faut absolument obtenir des aveux, mais Dreyfus n'a rien à avouer, puisqu'il n'a rien fait. Et d'ailleurs, il ne comprend même pas ce qu'on lui reproche, puisqu'on ne va jamais le lui dire, au moins pendant 15 jours.
Pourtant, le 22 décembre, Alfred Dreyfus est reconnu coupable de haute trahison par le premier conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris, qui le condamne à la déportation à l'île au diable en Guyane, mais aussi à la dégradation. Ça, c'est aussi un...
Oui, c'est toujours ainsi. La peine de mort a été abolie pour les crimes d'espionnage qui ne sont pas considérés comme des crimes politiques. Donc effectivement, c'est la déportation, suivant un régime d'ailleurs qui n'est pas le bon, c'est-à-dire qu'on va faire une loi spéciale pour Dreyfus. Mais il y a quand même quelque chose à dire un tout petit peu en amont qui est tout à fait intéressante, c'est que bon, le procès est organisé, il faut le faire. Au début, il devait avoir lieu en novembre, mais c'est pas possible, parce qu'il n'y a rien à faire, il n'y a rien à dire. Et donc l'idée, c'est de traîner le plus longtemps possible pour arriver à faire un procès qui aboutisse naturellement à la condamnation. Parce que imaginons l'innocence reconnue de Dreyfus, un non-lieu ou quelque chose comme ça, donc là, l'état-major saute, tout le monde saute, etc. Et donc, le problème, c'est que le procès n'a aucune chance d'aboutir à une condamnation, puisque puisque Dreyfus n'a rien fait et qu'il n'y a aucune preuve. Donc on va essayer de ramasser tout ce qu'on peut ramasser. Si ce n'est que la condamnation, on peut quand même l'imaginer, parce que le cas de la justice militaire est un cas quand même très particulier. Alors, sans citer la célèbre phrase de Clémenceau, mais qui est assez juste, qui est que la justice militaire est à la justice que la musique militaire est à la musique, c'est-à-dire un genre très particulier, c'est quand même une drôle de justice qui, par définition, enfin, on imagine un boucher qui serait jugé par la corporation des bouchers, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu qui est complètement différent. On n'a absolument aucune objectivité. Et naturellement, quelqu'un qui est soupçonné de traître et qui passe devant des pairs, des militaires comme lui, est quelqu'un qui, par définition, part avec un a priori défavorable. Et en plus, naturellement, comme il faut obtenir cette condamnation, un dossier secret est constitué, un dossier secret dans lequel il n'y a rien, d'ailleurs, mais à la limite, peu importe, parce que personne ne le regardera jamais, ce dossier secret. Ce dossier secret ne vaut pas pour ce qu'il contient, il vaut parce qu'il est. C'est-à-dire que le fait que le ministre de la guerre, c'est-à-dire que le plus haut degré de la hiérarchie militaire, transmette à ses subordonnés un dossier dans lequel il est simplement dit, avec une phrase qu'il le donne, « Voici les preuves de la culpabilité de Dreyfus » suffit pour emporter. Donc c'est vraiment une condamnation par ordre. Et dans ce cas-là, l'affaire est réglée. Donc effectivement, Dreyfus va se pourvoir en révision. Naturellement, ce sera refusé sur une phrase du responsable du conseil de révision qui est hors de question, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'il ne veut même pas voir le dossier. Dreyfus est coupable, l'affaire est réglée. Il ne connaît rien au dossier, hein, mais c'est comme ça, c'est un principe. Et Dreyfus sera dégradé sur ces scènes, cette célèbre scène qui a été mille fois reproduite, que nous connaissons avec ces images très fortes, des galons arrachés, du sabre brisé sur la cuisse de l'adjudant qui est chargé de cette triste besogne. Et voilà, donc on va jusqu'au bout de cette humiliation, avec naturellement une... Et c'était important, une manifestation publique et qui va permettre aux gens derrière les grilles de déverser leur haine en un mort aux juifs d'ailleurs sur lequel on pourrait s'interroger, est-il singulier ou pluriel? C'est une question que j'aime bien me poser.
C'est-à-dire qu'on a, parce que ce coupable est nécessaire et certainement un certain nombre de personnes savent qu'il n'est pas le coupable, ou en tout cas...
Oh bah, tout le monde en est très certainement persuadé.
Il faut l'humilier d'autant plus, enfin il faut le donner d'autant plus...
Mais ça c'est la loi de toute façon, c'est-à-dire qu'effectivement si un traître est condamné au maximum, qu'on arrive à prouver sa trahison et qu'il est condamné au maximum, c'est la condamnation avant tout, c'est l'indignation nationale, et l'indignation nationale passe effectivement par la dégradation. On n'a plus le droit de porter les armes.
Alors ça, c'est le début presque. Hein.
C'est le tout début, oui.
Nous en arrivons à la fin
mois,
quasiment de cette
deux
émission.
Mois et demi.
Mais en l'occurrence, après la dégradation, donc, Dreyfus va être envoyé à l'île de Ré, puis très vite en Guyane, dans des conditions de détention très particulières.
Ahurissantes.
Et à ce moment-là, outre sa famille, quelles sont les personnes qui vont se mobiliser pour Dreyfus?
Déjà, si vous permettez, juste une petite précision qui est importante, c'est qu'on va fabriquer pour Dreyfus, et là on comprend bien en fait toute l'importance de l'affaire, un régime particulier, puisque normalement Dreyfus doit être envoyé, donc c'est ce qu'on appelle, le mot est terrible, hein, naturellement, il est condamné à la déportation, mais la déportation à ce moment-là, c'est tout simplement le fait d'être obligé de vivre en Guyane sans en sortir, mais on est complètement libre, et on peut par exemple s'y installer avec son épouse et ses enfants quand on est un homme, ou quand on est une femme avec son mari et ses enfants. Là, on va mettre Dreyfus sur un îlot sur lequel il est le seul. Et quand on voit les statistiques des gardes, en fait, du nombre de gardes par rapport au nombre de prisonniers, on a à peu près 2 gardes pour une 50aine de prisonniers. Dreyfus en aura 20 pour lui tout seul, qui seront chargés de s'occuper de ce personnage. Et effectivement, l'affaire Dreyfus est finie à ce moment-là. C'est-à-dire que bon, l'affaire est réglée, c'est parfait. Les militaires qui ne peuvent pas se tromper ont déclaré que Dreyfus était coupable. Dreyfus est coupable. Et il n'y a que la famille, naturellement, qui sait que Dreyfus est innocent et qui va décider de se battre. Et surtout, celui qu'on appelle aujourd'hui, c'est un mot de Bernard Lazare, le frère admirable, Mathieu Dreyfus, qui va complètement arrêter de travailler, en fait, et qui ne va s'occuper que d'essayer de prouver l'innocence de son frère. Et pour ça, il lui faut... Mathieu Dreyfus n'a pas accès à la presse, Mathieu Dreyfus n'a pas accès aux célébrités de l'époque, et il lui faut trouver un relais qui serait susceptible de le faire. Et il a entendu parler de quelqu'un qui est un personnage très gênant, qui est un anarchiste, qui est un critique symboliste, c'est-à-dire une marge de la littérature tout à fait particulière, et qui, à côté de ça, est un israélite, et le mot est important pour lui, parce qu'il refuse qu'on dise qu'il est juif, et qui, par israélite, identité ou israélitisme développe un propos qui pourrait être considéré comme de l'antisémitisme. C'est-à-dire qu'il a peur de voir les juifs arriver, il a peur que les juifs qui fuient les pogroms de Galicie, de Pologne, etc., remettent en question le coup de tonnerre de 91, c'est-à-dire la citoyenneté offerte la citoyenneté française offerte aux juifs. Et effectivement, il développe ce genre de choses. Mais c'est quelqu'un qui est à ce moment-là en train de se reconstruire lui-même, comme il dit, qui est en train de repenser un peu à l'attitude qui doit être la sienne par rapport à son histoire et son propre peuple. Et tout de suite, l'affaire Dreyfus le passionne parce qu'il commence à travailler sur le meurtre rituel à l'époque et il s'aperçoit que la condamnation de Dreyfus et la façon dont elle a été obtenue ressemblent fort dans son processus, aux différentes accusations qui, depuis trois siècles, ont été montées sur les histoires de crimes rituels. Et là, il se dit, il y a quelque chose qui n'est pas possible là-dedans, et mon rôle est vraiment d'intervenir. Et donc, Bernard Lazare va entrer en action.
Alors, on va revenir plus longuement, parce que ça, c'est quand même quelqu'un de fondamental pour l'affaire Dreyfus, Bernard Lazare.
Ah oui. C'est quelqu'un de fondamental pour l'affaire Dreyfus, et pas que pour l'affaire Dreyfus d'ailleurs, c'est quelqu'un de fondamental. Il faut absolument lire. D'ailleurs, on est en train, là, chez un petit éditeur qui travaille admirablement, qui s'appelle les éditions du Cendre, de publier l'œuvre complète de Lazare. C'est-à-dire tous ses articles, ça va faire trois énormes volumes, etc. Mais il faudra lire ça parce que c'est passionnant. Donc c'est un personnage déjà fascinant, antisémite. Enfin, pour moi, c'est pas de l'antisémitisme, c'est autre chose que j'essayais d'expliquer tout à l'heure. Dans sa jeunesse et qui va devenir la grande figure sioniste française. Alors un sionisme très particulier qui est un sionisme libertaire qui est à mi-chemin en fait entre le sionisme culturel d'Echad Ha'am et la pensée de Dubnov, c'est-à-dire à la fois diasporique et à la fois pour l'immigration en Palestine, mais avec une volonté qui est de penser le sionisme avant tout d'une façon intérieure, c'est-à-dire de se reconstruire lui-même, de soi-même, de reconstituer mentalement la nation juive avant de pouvoir penser à autre chose. Et c'est surtout un combattant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a peur de rien, c'est quelqu'un qui aime le combat, c'est quelqu'un qui a une correspondance avec Drummond, par exemple, absolument ahurissante, dans laquelle il le prévient, mais Drummond, ne croyez pas que tous les juifs sont comme ceux que vous attaquez, il y en a qui ont l'intention de résister et qui sont prêts à se battre, et je fais partie de cela et je ne suis pas le seul. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est très important, en fait, dans l'histoire de la lutte contre l'antisémitisme, et c'est un personnage vraiment à découvrir, puisque malheureusement, il est tombé dans les oubliettes de l'histoire, même si je m'obstine depuis 15 ans à tout rééditer, mais voilà, et c'est quelqu'un qu'il faut lire, qui a une langue absolument merveilleuse, et qui est vraiment très important, puisque j'ai retrouvé par exemple un petit manuscrit tout à fait ahurissant, qui est celui du brouillon qu'il a jeté finalement, qu'il ne publiera jamais, de la toute première plaquette en défense de Dreyfus, et qui finit par la litanie des J'accuse. C'est-à-dire que Lazare écrit J'accuse deux ans avant Zola, et il lui donnera d'ailleurs la litanie que Zola récupérera pour faire son célèbre article. Alors Zola a écrit J'accuse, n'y a pas de doute, hein, mais la très belle figure de rhétorique vient de Lazare.
Alors on a à ce moment précis, voilà, le début de l'intervention de Bernard Lazare, et puis parallèlement et dans des cercles complètement différents, en 1896, il y a le lieutenant Picard qui est le nouveau chef du service des renseignements ou section des statistiques.
C'est ça, c'est pareil.
Et qui, malgré les faux établis par le commandant Henri, acquiert la conviction que le véritable auteur du bordereau est un certain Esterhazy.
Oui. Alors, c'est-à-dire que les faux, lui, il ne les connaîtra jamais. Hein. C'est ce que j'essaye de montrer dans le livre, parce que c'est une question qu'on ne s'était jamais posée. C'est comment... Picard arrive en 95, il découvre tout en 96. Que s'est-il passé pendant un an ? Parce que les faux, naturellement, enfin pas les faux, mais déjà les lettres, les correspondances continuent à arriver de la poubelle. Et naturellement, comme Dreyfus est innocent, le traître, lui, continue à agir. Et donc Henri va dissimuler ou détruire tous les papiers qui arrivent les uns après les autres. Et le problème, c'est qu'un jour, il est obligé de partir parce que son père est gravement malade, et ces deux jours d'absence vont être une catastrophe absolue, puisque là, il ne peut pas faire le tri. Et arrive un papier qui est un petit bleu. Il y avait à Paris autrefois un système absolument extraordinaire qui permettait de s'échanger des correspondances jusqu'à quatre fois dans la même journée. Quel temps béni. Et donc, c'est le réseau pneumatique. Donc, c'est ce qu'on appelait les pneumatiques, les petits bleus. Et en fait, c'est un petit bleu qui a été écrit et finalement déchiré et jeté à la poubelle par l'attaché militaire allemand, donc la femme de ménage a récupéré, et qui est un message qui est adressé directement à un pourvoyeur, donc à un traître. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'au dos, il y a l'adresse du destinataire de la lettre qui n'est jamais parti, commandant Esterhazy, 27 rue de la Bienfaisance. Donc quand Picard découvre ça, il se dit, mais c'est pas possible, il y en a un autre. Parce que naturellement, inévitablement, il ne peut pas penser une seconde que Dreyfus n'a rien à voir dans cette affaire. Surtout que Picard, on en parlera tout à l'heure, et je ne sais pas s'il y a des degrés dans l'antisémitisme, à mon avis, je ne pense pas. Mais s'il devait y en avoir, il suffit d'être antisémite, ça suffit. Il est vraiment délirant, quoi. Il est, voilà. Alors pour donner un exemple, lors de la dégradation de Dreyfus, quand un de ses collègues lui dit, enfin c'était terrible cette scène, etc., etc., et sur le stoïcisme de Dreyfus, Picard répond, mais c'est un juif. Quand on enlevait ses galons, il devait se dire, tant d'or à tant de poids, ça fait tant. Voilà, ça c'est Picard.
Alors, je vous remercie beaucoup, Philippe Auriol, et surtout, j'invite les auditeurs à poursuivre avec vous cette histoire de l'affaire Dreyfus la semaine prochaine. Et en attendant, je rappelle l'apparition donc de votre histoire de l'affaire Dreyfus de 1894 à nos jours, aux éditions Les Belles Lettres, dont les recherches ont bénéficié du soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. C'était Mémoire vive. Vous pouvez retrouver l'émission sur le web, radio-rcj.info ou mémoire vive au pluriel.net.